L'émission que vous allez écouter a été réalisée par Alexandra Josse et Antoine Charbonneau en juillet 2003. Une interview qui permet de mettre en perspective la situation de la Guyane française aujourd'hui. Thierry Salentin, ethnologue, a vécu de 1986 à 2000 parmi les peuples autochtones de la Guyane française. Depuis, il mène une campagne d'information contre la création d'un parc naturel en forêt équatoriale qui menace la survie de ces peuples en permettant au tourisme de s'implanter dans leur région d'habitation. Pour comprendre les mécanismes de domination à l'œuvre aujourd'hui, il aborde avec nous dans cette première partie l'histoire de l'implantation des peuples et la colonisation en Guyane. Thierry Salentin.
Dans le sud forestier, où les Amérindiens sont pour la plupart analphabètes, ne savent pas lire, pour eux c'est beaucoup plus délicat, donc c'est pour ça que j'ai été agir là-bas chez eux, et puis j'ai essayé de m'opposer aux chercheurs d'or. Quand je suis arrivé en 86, je me suis opposé au rallye Paris-Dakar. Thierry Sabine Organisation, qui voulait créer un rallye motonautique avec des bateaux hors-bord. Et comme par hasard, il voulait que les bateaux hors-bord circulent sur les fleuves habités par les Amérindiens, alors qu'il y a des fleuves inhabités en Guyane, comme la Mana et la Prouague. Mais non, parce qu'il fallait que le Zodiac soit photographié avec en arrière-plan le loup pittoresque avec le petit pagne rouge et les seins nus d'une Amérindienne ou une Amérindienne tenant son bébé dans un petit hamac sur l'épaule. Bon, pour moi, c'est une exploitation grotesque de type zoo humain des populations. Donc je me suis opposé au Paris-Dakar en 86.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler juste au niveau superficie ce que ça représente la Guyane, au niveau densité de population,
bien
etc.
Sûr.
Et où sont justement les autochtones?
Bien sûr. Alors déjà, il ne faut pas faire comme certains fonctionnaires des PTT. La Guyane, ce n'est pas en Afrique, du côté de la Guinée. C'est bien en Amérique du Sud, juste au-dessus de l'équateur, au nord du Brésil. Ça touche l'État fédéral du Brésil qui s'appelle l'Amapá. C'est adossé aussi un petit peu au Pará. Et de l'autre côté, il y a la Guyane hollandaise, qui s'appelle maintenant le Suriname. Le Suriname est indépendant depuis 1975, mais il faut préciser que le Suriname est depuis à peu près 1982 un narco-État dirigé par un narco-dictateur. Enfin, ça, c'est autre chose, mais la situation est très bizarre au Suriname. Donc la Guyane, c'est 300 km sur 300, ça fait 90 000 km². C'est la taille de 15 départements habituels en France, mais il n'y a qu'une seule route qui longe la côte au nord. Il n'y a que trois villes, hein, principalement, c'est Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Et 90% de la population vit le long de cette unique route, laquelle route n'est même pas terminée en direction du Brésil. Enfin, on y circule déjà, mais c'est une route en terre actuellement pour rejoindre la frontière du Brésil. Et il y a 9% de la population le long de la frontière avec le Suriname, 1% de la population le long de la frontière avec le Brésil. Ça veut dire que dans tout le centre, tout le milieu, c'est-à-dire 95% de la surface de la Guyane, il y a quasiment zéro habitant. En fait, il n'y a que deux villages qui s'appellent Saül et Saint-Élie, et c'est tout. C'est-à-dire c'est très très peu habité en plein milieu. Autrefois, quand les Indiens étaient libres, ils étaient absolument partout, très judicieusement répartis en fonction des ressources amazoniennes. Ils vivaient selon le principe du jardinage itinérant sur brûlis, en village semi-nomade, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient tous les 10-15 ans. Et on voit aux traces de polissoirs, c'est-à-dire les endroits où ils polissaient leurs haches de pierre, qu'ils étaient absolument partout, très équitablement répartis en fonction des disponibilités écologiques du milieu. Alors la population actuellement au pouvoir à Cayenne, c'est les descendants de ceux qui ont été libérés de l'esclavage en 1848. Alors là aussi, je ferai une nuance parce que c'est pas que des esclaves qui ont été libérés en 1848, parce qu'il y avait déjà énormément d'affranchis. Étant ces Noirs affranchis, il y avait une bourgeoisie noire qui s'entichait d'imiter le mode de vie des Blancs. Et dès les années 1830, il y avait déjà des familles bourgeoises noires qui mettaient leur argent, qui consacraient leur argent aux plantations et qui étaient elles-mêmes, en tant que famille bourgeoise noire, propriétaires d'esclaves noirs. Donc c'est toujours trop simpliste de dire que l'histoire de l'esclavage, c'est noir-blanc, blanc-noir. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu énormément d'esclaves blancs aux Caraïbes, notamment 30 000 Irlandais déportés par Cromwell. Ça, c'est très peu connu. Il y avait dans le système français ce qu'on appelle des engagés, c'est-à-dire des esclaves blancs qui avaient un contrat de 3 ans pour rembourser leur voyage. Et comme le patron savait que cet esclave-là n'était esclave que pendant 3 ans, en fait, ces 3 années-là, il fallait le faire rendre au maximum, qu'il travaille le maximum, parce que c'était un contrat à durée
À
déterminée.
durée.
Donc, ils étaient quelquefois plus maltraités que les esclaves noirs, qui, eux, l'étaient définitivement, quoi. Alors, les descendants des libérés de 1848 ont très vite sont tombés dans le syndrome du mimétisme qui est décrit par Frantz Fanon. C'est-à-dire ils tiennent à imiter la culture blanche, mais souvent dans ses aspects les plus bourgeois, les plus aristocratiques, les plus guindés. Et alors, l'un de ces intellectuels, alors, en Guyane, on les appelle créoles. Alors que créole, au sens du dictionnaire, ça veut dire blanc né dans les îles à sucre. Mais comme les blancs de Guyane, en tant que propriétaires d'esclaves, sont quasiment tous partis à la fin du 19e siècle parce qu'ils ont fait faillite, sauf quelques-uns qui sont restés pour la première ruée vers l'or qui a commencé vers 1855. Donc créole, maintenant en Guyane, ça veut dire noir métis ou africano-créole ou de langue créole, de culture créole. Alors ces créoles, actuellement, ils ont quasiment 100% du pouvoir au conseil général, au conseil régional, et ils ont horreur des peuples de la forêt. Qu'ils soient noirs cimarrones, c'est-à-dire les noirs qui ont échappé à l'esclavage d'eux-mêmes en s'enfuyant dans la forêt. Cette fuite dans la forêt s'appelle le marronnage, et en français, on les appelle les noirs marrons, en espagnol cimarrones, c'est-à-dire fuir vers les cimes des montagnes. Et alors, les noirs marrons, comme les Amérindiens, sont détestés par les noirs créoles de Cayenne. Et là, je vais citer les paroles de Serge Mamelin Fouque, qui est un historien créole qui a écrit chez Ibis Rouge Histoire générale de la Guyane française. Alors déjà, le titre, c'est une escroquerie. C'est absolument pas une histoire générale parce que c'est l'histoire uniquement des créoles de Cayenne. Et il a cette phrase atroce dans son livre. Il dit que le rôle des créoles en Guyane, c'est de dilater l'espace colonial au détriment de l'espace tribal. Et il dit ça aujourd'hui. On a l'impression d'avoir affaire à un texte de 1930.
Valentin, peux-tu expliquer la situation actuelle des peuples autochtones?
Je vais d'abord faire un rapide historique. Hein. Effectivement, la Guyane, c'est une colonie française. C'est une des premières colonies parce que ça remonte à peu près à 1604. Et la France est définitivement présente à Cayenne depuis 1676. Parce que pendant 40-50 ans, il y a eu une dispute entre les colons français, les colons hollandais, les colons anglais et les colons portugais aussi. Parce que par exemple, les Français étaient présents au Brésil quasiment en même temps que les Portugais. Il y a Villegagnon qui a découvert la baie de Rio, c'était vers 1550. Bon, et la situation s'est un peu stabilisée 1676, donc les Français sont en Guyane française. Mais là, il y a les Amérindiens. Il y en avait 60 000, et en 1948, il en restait moins de 700. C'est-à-dire un terrible génocide. Il y avait 30 peuples amérindiens différents. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Il n'y a pas longtemps, il y en avait 7, mais il y a encore tout récemment un peuple amérindien de Guyane, les Akulio, qui ont été exterminés suite à l'intervention de missionnaires protestants. Donc c'est toujours une situation coloniale. Alors le paradoxe, c'est que dans les années, au milieu du XXe siècle, quand beaucoup de peuples du tiers-monde revendiquaient leur indépendance, je pense à Gandhi en Inde par exemple, ben les militants habitant la Guyane ont demandé exactement l'inverse. C'est-à-dire, ils ont supplié le gouvernement français, à la place d'avoir l'indépendance, d'être assimilé. Et donc, le gouvernement a voté les lois d'assimilation en 1946. Et les lois d'assimilation, ça veut dire que les colonies, comme la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ont été transformées en départements d'outre-mer. C'est-à-dire intégrées, je dirais même cannibalisées. Assimilé, c'est au sens digestif, on a intégré ces départements comme s'ils étaient exactement à l'intérieur de la France. Donc ça donne une situation aberrante. Et les Amérindiens sont furieux parce que eux, on déclare leur forêt officiellement terre vacante et sans maître. C'est comme s'il n'y avait personne. Et en France, on vit toujours selon le principe colonial de terra nullius, la terre nulle, la terre vide, la terre libre à la colonisation. Donc ça aussi, ça vexe beaucoup les Amérindiens. Alors il faut savoir qu'en Australie, par exemple, depuis 1992, la notion de terra nullius a été abandonnée suite au combat des militants aborigènes, notamment le combat de Eddie Mabo. Mais en Guyane française, on est toujours sous le régime colonial de terra nullius. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais étant donné que la Guyane est maintenant, depuis 1946, un département, la situation ne peut pas évoluer puisque c'est le territoire de la République sacrée, une et indivisible, aux frontières intangibles, etc. » Alors à ça, je réponds « Oui, la Guyane est un département, mais l'Algérie aussi était un département. Et puis en Algérie, ça a évolué. On sait bien que la France était une et indivisible de Dunkerque jusqu'à Brazzaville, ça a évolué. » Ensuite, c'était les frontières sacrées de Dunkerque jusqu'à Tamandracet. Ça a évolué aussi. Maintenant, on en est à la République une et indivisible de Dunkerque jusqu'à Bonifacio. Peut-être que là aussi, ça va évoluer. On ne sait pas si... Peut-être qu'un jour, la Corse obtiendra une relative indépendance. On ne sait jamais. Donc, tout peut évoluer. Et je pense que la Guyane pourrait accéder à l'indépendance, à condition que ça soit une réelle indépendance, une indépendance au profit des peuples indigènes, c'est-à-dire des Amérindiens, et non une indépendance au profit des colons. Alors là, je renvoie au gros pavé qui vient de sortir sur l'histoire de la colonisation de Marc Ferraud, l'historien Marc Ferraud. Et Marc Ferraud fait remarquer, à juste titre, qu'il faut faire très attention avec le terme indépendance, parce qu'il existe des fausses indépendances que lui appelle les indépendances colons. Par exemple, les États-Unis, c'est le résultat d'une indépendance colon. C'est uniquement une brouille interne entre Européens. Les Européens qui étaient là-bas et les Européens restés en Europe, ils se sont fâchés. Il y a eu une guerre dite d'indépendance, mais c'est juste une guerre interne aux Européens qui n'avait rien à voir avec les peuples indigènes. Et au contraire, en général, les indépendances colons, c'est quand les colons obtiennent l'autonomie par rapport à la métropole d'origine. En général, c'est pour être encore plus agressif, encore plus méchant par rapport aux peuples autochtones. Ça s'est passé aux États-Unis. En fait, le roi George III d'Angleterre voulait protéger les Indiens au-delà de la ligne des Appalaches. Il disait qu'au-delà, c'était territoire souverain amérindien. Les colons n'en voulaient pas. Dès qu'ils ont obtenu l'indépendance, ils se sont dépêchés d'aller casser la gueule aux Amérindiens. Et en Guyane française, il se passerait la même chose. Si jamais on donnait l'indépendance, mais au profit des colons de Cayenne, les colons de Cayenne se dépêcheraient de profiter de leur indépendance pour régler leur compte définitivement aux Amérindiens. Donc voilà, il faut faire une... C'est important de faire une nuance entre les vraies indépendances et les fausses indépendances. Et moi, je souhaite l'indépendance au profit des Amérindiens. Et je viens de publier un article à ce sujet qui est dans la revue L'Écologiste de juin 2003. Bon, j'ai essayé d'évoquer cette hypothèse. Alors, pour les Amérindiens, il y a trois familles de langues. Il y a les langues caribes, parlées par les Kalinya et les Wayana. Il y a les langues Tupi, parlées par les Teko et les Wayampi. Et il y a les langues Arawak, qui sont parlées par les Païkouéné et les Lokono. Et il y a aussi, sur la côte, la langue française de type créole. C'est-à-dire c'est une forme française un peu spéciale. Enfin, on le connaît un peu en France parce qu'on entend parler les Martiniquais, les Guadeloupéens. Donc il y a un créole guyanais. Et puis maintenant, évidemment, à cause de la ruée vers l'or et du fait que les ouvriers sont tous d'origine brésilienne, beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de Surinamiens aussi. Et il y a aussi énormément de Guyaniens. Alors on appelle Guyaniens les ressortissants du Guyana et eux sont anglophones. Et il y a quelques hispanophones qui viennent de Colombie, du Pérou, d'Équateur. Donc, enfin, tous les peuples de l'ensemble de l'Amérique du Sud se retrouvent d'une façon ou d'une autre en Guyane. Une fois, il y a eu un recensement de l'éducation nationale et ils avaient noté 60 nationalités différentes en Guyane française. Thank you.
Thierry Salentin, ethnologue, a vécu de 1986 à 2000 parmi les peuples autochtones de la Guyane française. Depuis, il mène une campagne d'information contre la création d'un parc naturel en forêt équatoriale qui menace la survie de ces peuples en permettant au tourisme de s'implanter dans leur région d'habitation. Dans cette seconde partie, il nous parle de ces atteintes faites aux Amérindiens que sont le tourisme et l'orpaillage. La loi de 1970 donnait un espace à ces populations autochtones et au final est remis en question tout dernièrement. Là.
Actuellement, on a un créole cayennais qui est au pouvoir au gouvernement. Le gouvernement Raffarin a nommé Léon Bertrand, natif de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Il était député-maire de Saint-Laurent-du-Maroni et maintenant il est secrétaire d'État au tourisme. Alors il profite de son rôle au gouvernement pour jouer un sale tour à ses ennemis toujours, les Amérindiens. Et si maintenant que je suis au gouvernement, ben je vais supprimer ce règlement qui protège les Amérindiens depuis 1970. Et on a fait une campagne de lettres fin 2002. Et plein de gens ont écrit pour protester, pour exprimer leurs soucis si jamais cet arrêté préfectoral de 1970 était supprimé. Et à notre grande stupéfaction, au lieu de s'excuser ou de dire qu'il allait créer une commission, comme ils font tous, pour réfléchir davantage, il a dit « Non, je confirme, effectivement, je veux abroger l'arrêté préfectoral de 1970 au nom de la libre circulation des biens et des personnes. » Il précise aussi « et des accords de Schengen ». Là, je crois qu'il se trompe parce que les accords de Schengen ne concernent pas les départements d'outre-mer. Et il dit aussi que c'est au nom de la République une et indivisible. Enfin, il cite le préambule de la Constitution, et pour lui, c'est un argument pour qu'on supprime un règlement qui protège les Amérindiens. Enfin, je trouve ça très hypocrite, en tout cas très dangereux pour les trois ethnies amérindiennes qui peuplent actuellement le sud forestier de la Guyane, à savoir les Tekos, qu'on appelait autrefois les Émerillons, qui sont à peu près 300 à 400 personnes, les Wayampis, qui sont, eux, partagés par les frontières coloniales, c'est-à-dire il y a des Wayampi également au Brésil. Il y a quatre petits villages encore très traditionnels, hein, où les gens vivent uniquement de chasse, de pêche, de cueillette et de jardinage itinérant. Il existe même encore dans la forêt des groupes Wayampi dits non contactés, que personne n'a jamais vu et qui échappent à toute pression coloniale. Peut-être même qu'ils ont encore des haches de pierre. Et puis de l'autre côté, côté de la frontière avec le Suriname, en rive française, il y a les Wayana. Alors les Wayana, eux, sont divisés par les frontières coloniales en trois morceaux, quoi. Il y a les Wayana en Guyane française, les Wayana au Suriname et les Wayana au Brésil. Mais au Brésil, ça se passe quand même beaucoup mieux, enfin au moins dans cette zone-là, parce que le gouvernement brésilien a reconnu plus de 50 000 km² de terre pour différents groupes amérindiens juste à côté de la Guyane. Et il n'y a pas longtemps, le gouvernement brésilien, c'était le 22 août 2002, a annoncé, c'était à Johannesburg, ils ont annoncé qu'ils venaient de créer un immense parc national tout le long des frontières de la Guyane. C'est un parc national de 38 000 km². Et ce qui est très bien dans la façon de faire des Brésiliens, c'est qu'ils ne mélangent pas les torchons et les serviettes, c'est-à-dire qu'ils ne mélangent pas les zones de protection de la nature et les zones territoires amérindiens. Parce que si on mélange, en général, c'est toujours catastrophique pour les populations autochtones. Et la France est en train de s'orienter vers un projet détestable. La France veut mélanger, justement, dans un même endroit, un parc national et un territoire amérindien.
Ce qui amènerait en fait du tourisme.
Ça amènerait les touristes au prétexte de visiter la nature. En fait, les touristes, ils restreignent l'œil dans les villages amérindiens pour aller mater les seins nus des Amérindiennes. Et ça fait partie de la marchandisation généralisée, la tendance actuelle OMC, AGCS. Et il peut y avoir des dérives si le pays indien, c'est-à-dire les 30 000 km², le tiers sud de la Guyane, est ouvert au tourisme. Thank you.
Thierry Salentin.
Il y a eu une première ruée vers l'or, donc fin du 19e, où on travaillait qu'à la pelle et à la pioche. Cette ruée s'est terminée dans les années 1950. Pendant 10-20 ans, il n'y avait plus rien. Et puis tout d'un coup, avec une nouvelle méthode brésilienne qui consiste à mettre des gros moteurs dans la forêt qui font de la pression, on pompe de l'eau et on décape la surface du sol avec des lances type lance à incendie. Avec cette nouvelle méthode, maintenant, il y a une ruée vers l'or. Et on repasse dans tous les endroits où les chercheurs d'or étaient déjà passés au XIXe siècle. Et cette ruée vers l'or crée de gros dégâts. Déjà parce que tous ces gens-là travaillent avec du mercure. Le mercure a comme propriété de s'amalgamer à l'or. Ça sert un peu d'aimant. Et une fois qu'on a obtenu l'amalgame or-mercure, et il faut savoir qu'on utilise 1,3 kg de mercure pour 1 kg d'or extrait, donc énormément de mercure. Bon, une fois qu'on a l'amalgame, il suffit de chauffer par en dessous et le métal mercure s'évapore. Alors ce que ne savent pas les chercheurs d'or, c'est que le mercure évaporé, il va se condenser, il va se refroidir et il va retomber dans la nature. Et là, le mercure métal se transforme en mercure organique. On appelle ça du méthylmercure. Et le procédé de passage de mercure métal à mercure organique, ça s'appelle la méthylation. Alors, le mercure méthylé, le méthylmercure, est très toxique parce qu'il intègre la chaîne alimentaire, il se concentre le long de la chaîne alimentaire. Et comme nous, les êtres humains, on mange bien sûr les plus gros poissons, mais on mange les poissons les plus contaminés. Et les Amérindiens, actuellement, avec seulement 4 espèces de poissons carnivores, ces 4 espèces sont à l'origine de 75% du mercure qu'ils ont dans le corps. Et d'après les dernières analyses, 79% des enfants amérindiens et 65% des adultes ont dans le corps une dose de mercure qui dépasse les normes préconisées par l'OMS. Donc c'est une contamination extrêmement grave. Et le mercure a comme propriété de traverser la paroi dans le ventre de la mère. Donc ça contamine le fœtus. Et les bébés naissent, quand ils naissent, parce qu'il y a beaucoup de fausses couches, ils naissent soit mort-nés, soit lourdement handicapés, parce que le mercure, ça détruit le cerveau, enfin les cellules nerveuses. C'est un neurotoxique. Et alors, on le sait parce que il y avait eu une catastrophe au Japon, dans le sud du Japon, dans la baie de Minamata, où il y avait 7 ou 8 villages de pêcheurs traditionnels. C'est une usine qui s'appelle Shiso, qui était le plus gros employeur de la région, qui déversait du mercure directement dans l'eau de mer. Et ça a commencé en 1932. On a commencé à s'apercevoir des dégâts, des maladies à partir de 1955. Ça veut dire qu'il y a un effet retard entre le moment du début du déversement du mercure et le moment où il y a les maladies. Au début, les médecins étaient perplexes. Et puis, c'est par l'intermédiaire de l'observation des chats, qui se nourrissaient que de poissons. Ils voyaient les chats de tituber ou les petits chatons naître infirmes. Et c'est là où ils ont découvert que l'origine de l'intoxication, c'est le mercure. Et c'est devenu très grave dans les années 70. Et en 72, il y a eu un scoop mondial. Là, c'est la revue Life qui a publié les photos d'un célèbre photographe des États-Unis qui s'appelle Eugene Smith. Il a publié ensuite un livre sur Minamata avec 151 photos atroces, des photos d'enfants handicapés, de mères baignant leurs enfants qui sont tordus, qui ont un visage vraiment hideux, déformé par la douleur. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu, je crois, 2000 morts et 20 000 handicapés. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps un film sur Minamata. Et la leçon que j'en retiens, c'est que les pêcheurs disent: malgré tout ce qui nous est arrivé, on n'a jamais changé nos habitudes alimentaires. Ça veut dire que dans n'importe quel peuple, c'est l'alimentation qui est la base de la vie culturelle. Et l'alimentation, ça ne change pas comme ça. Or, actuellement, le gouvernement français a pris une seule décision depuis le début de l'apparition du problème du mercure chez les Indiens. La seule décision prise, c'est: au lieu de s'attaquer aux chercheurs d'or, on va s'attaquer aux Indiens parce que c'est eux qui ont tort. Et on va exiger que les Indiens changent leurs habitudes alimentaires. Ça, c'est la seule attitude jusqu'à aujourd'hui du gouvernement français depuis la crise qui a éclaté en février 2000. Février 2000, c'est le moment où les chercheurs d'or ont quitté la zone de Dorlin dans le centre de la Guyane pour envahir le pays indien qui est en principe protégé depuis 1970. Ils ont envahi la rivière Waki et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune opération de répression contre les entrepreneurs de la rivière Waki, notamment Jean Bénat, qui est là. Et donc, le gouvernement français ne fait rien. Tout l'intérieur forestier, là où il y a de l'or, c'est devenu zone de non-droit avec banditisme, avec attaque des chantiers, les gens s'attaquent les uns les autres, avec prostitution, avec sida, avec crack, avec cocaïne. Enfin, ça devient socialement explosif parce que Jean Bénard sévit toujours. Le 14 mai 2003, ça s'est marqué dans le communiqué de presse de Reporters sans frontières du 15 mai. Il y a aussi l'article du Monde du 17 mai qui raconte que Jean Bénard devait aller en cour d'assises à Cayenne pour assassinat d'une Amérindienne. Il s'agissait de l'assassinat à Mari Passoula de Joséphine Maturin, la dernière Amérindienne très âgée de l'ethnie Teco qui connaissait toute la culture orale. Donc elle est morte, c'est comme si une bibliothèque avait brûlé, quoi. Alors Jean Bénard non seulement s'est permis de ne pas se présenter devant le juge, il est resté sur les marches devant le palais de justice pour défier tous les témoins. Et à un moment, il a vu passer le journaliste Frédéric Farine et il lui a tout simplement cassé la figure devant deux policiers en uniforme qui n'ont pas bronché. Et à la fin, il y a des policiers en civil qui se sont approchés, qui ont tutoyé Jean Bénard. Ils lui ont dit « Allez, arrête, tu vois, tu l'as assez esquinté comme ça, maintenant ça suffit, calme-toi. » Mais il y avait de multiples raisons pour lui mettre les menottes pour le présenter devant le juge. Mais personne n'intervient. On a l'impression que Jean Bénard, il est protégé. Et il est protégé depuis la complicité d'un préfet qui s'appelle Dominique Vian, qui était en poste il n'y a pas très longtemps en Ardèche. Dominique Vian, ça lui est arrivé plusieurs fois de dîner avec Jean Bénard. Donc il y a une complicité étrange entre l'État français, la préfecture et les chefs bandits, chercheurs d'or, les chefs de milices privées armées. Et le préfet actuellement coupable, c'est pas rien, c'est pas n'importe quel préfet. C'est Monsieur Ange Mancini qui est le créateur du RAID, le RAID qui vient d'arrêter Colonna. Donc là, Sarkozy a nommé en Guyane un préfet, paraît-il, à poigne, Ange Mancini. Mais Ange Mancini, jusqu'à aujourd'hui, il fait comme les deux préfets précédents, Dominique Vian et Henri Masse. Il s'aplatit devant Jean Bénard. Jean Bénard est devenu le maître de la Guyane. Il fait sa loi et il fait sa loi avec des milices privées.
Il a de gros moyens financiers, ce Jean Bénin, là.
Mais il doit avoir des gros moyens financiers parce que comme Dominique Vian lui avait donné le feu vert pour être une espèce de barbouze qui fait régner l'ordre dans la forêt, lui il a profité de cette espèce de feu vert du gouvernement pour éliminer ses concurrents, pour avoir le monopole de la plupart des chantiers. On ne sait pas si on extrait chaque année de Guyane 3 tonnes ou 40 tonnes d'or. Et à 80 francs le gramme, ça fait pas mal. Et si Jean Bénard a la haute main sur une grande partie de cet or, ça veut dire qu'il est immensément riche et qu'il s'est créé une clientèle partout. C'est simple, pour exploiter de l'or en Guyane, on donne un dessous de table à la préfecture, à l'ADRIR, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, à l'ONF, et puis certainement à des élus locaux. Donc c'est une situation assez glauque et étrange dans soi-disant la patrie des droits de l'homme, quoi.
Il y a également des gros lobbies industriels qui essayent
Oui.
d'exploiter l'or là-bas.
Alors, c'est des multinationales essentiellement du Canada et des États-Unis. Alors, c'est par exemple Golden Star qui se fait appeler Guyanor. C'est Hope Bay qui se fait appeler Ariangold. C'est Rio Tinto. Rio Tinto est basé à Londres. Il faut savoir que Rio Tinto, ils sont associés avec une grosse compagnie états-unienne qui s'appelle Freeport-McMoRan. Et Rio Tinto, avec Freeport-McMoRan, ils ont à Grasberg, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la plus grosse mine d'or du monde. Et là-bas, ils ont une armée privée qui tue les Papous tout autour. Officiellement, c'est dans la partie dite indonésienne ou Irian Jaya. Donc, si Rio Tinto vraiment s'installe en Guyane, ça sera très grave pour les populations. Et nous, ce qu'on a peur, c'est que ces grosses multinationales, avec les énormes moyens financiers qu'ils ont, se mettent à zébrer tout l'intérieur forestier de route au prétexte d'aller désenclaver des sites miniers. Et s'il y a des routes qui commencent à zébrer l'intérieur forestier, ça sera la fin à la fois de la forêt amazonienne et des populations autant noires-marrons que amérindiennes qui vivent traditionnellement dans la forêt. Parce que quand une route pénètre dans la forêt, ensuite c'est la destruction, c'est le braconnage, c'est les grumiers, c'est-à-dire les exploitants forestiers qui vont sortir du bois en profitant d'une route pour évacuer les troncs d'arbres. Tout arrive avec les routes. Pour le moment, heureusement, il n'y en a qu'une seule qui longe la côte, mais ça serait horrible s'il y avait des routes qui pénétraient vers l'intérieur. Or, c'est curieusement une exigence des politiciens créoles cayennais. Eux voudraient qu'il y ait des routes partout, parce que dans leur rêve mimétique de faire comme en France, ils voudraient que la Guyane soit comme la France, avec une capitale en plein milieu, style Brasilia. Alors, quelquefois, le hameau de Sahu, où il y a 25 habitants, ils rêvent que ce soit le Brasilia de la Guyane. Et à partir de là, plein de routes qui partent en étoile. Ah là là, comme ça, on serait moderne.
Thierry Salantin, ethnologue, a vécu de 1986 à 2000 parmi les peuples autochtones de la Guyane française. Depuis, il mène une campagne d'information contre la création d'un parc naturel en forêt équatoriale qui menace la survie de ces peuples en permettant au tourisme de s'implanter dans leur région d'habitation. Dans cette troisième partie, il évoque les pressions culturelles que subissent les Amérindiens, les luttes qu'ils mènent afin de faire reconnaître leurs droits et il nous parle de ses actions menées là-bas.
Il y a également d'autres atteintes aux populations autochtones, c'est l'évangélisation encore, le poids justement de cette volonté d'occidentaliser ces peuples-là, de les assimiler entre guillemets.
Bien sûr, alors bon, c'est facile d'attaquer les sectes protestantes fondamentalistes. Par exemple, c'est eux qui sont la cause de la disparition du peuple Akulio, mais il faut savoir que même les catholiques ont une attitude très dangereuse, parce que les prêtres catholiques disent les parents sont foutus, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard pour eux, ils sont entre les mains du diable. Par contre, on a peut-être un petit espoir de sauver les enfants. Donc les prêtres essayent d'arracher les enfants à leur famille pour les arracher aux influences diaboliques. Et actuellement en France, c'est-à-dire en Guyane française, il existe encore 3 internats où on déporte les enfants amérindiens. Ça s'appelle des homes amérindiens. Il y en a un à Maripasoula, il y en a un à Saint-Laurent-du-Maroni, il y en a un à Saint-Georges de l'Oyapock. C'est tenu par des religieuses, et dans ces homes amérindiens, on place des enfants qu'on arrache à leur famille, et puis on les formate aux coutumes occidentales, catholiques, chrétiennes, etc. Et moi, j'ai vu devant moi un prêtre aller voir dans un village indien Wayana un père de famille qui avait beaucoup d'enfants. Il avait ciblé celui qui avait le plus d'enfants, et il dit au père, voilà, je te propose un contrat, je te donne un moteur hors bord, et tu me donnes tous tes enfants. J'ai vu aussi une autre fois un enfant qui me montre un imprimé. Il me dit, regarde, je comprends pas, monsieur le curé, le père Michel Crosson, qui était, entre parenthèses, également inspecteur de l'éducation nationale, ce qui est étrange dans l'école laïque, toujours est-il que Michel Crosson avait donné un imprimé à cet enfant pour que le père signe. Et il me dit, mais tu crois que mon père peut signer ça? Et je regarde le papier, c'était en tête ministère de la Justice, et en dessous c'était écrit, demande de déchéance de paternité. C'est-à-dire si le père avait signé, ensuite le curé va au tribunal et il obtient la garde légale de l'enfant. C'était un moyen de s'entourer d'un étrange harem de gosses. Là, dans ce cas-là, c'était à Saint-Laurent-du-Maroni, au prétexte d'éduquer ces pauvres enfants de la forêt qui sont entre les mains de païens, qui sont troublés par le diable, enfin les vieilles légendes catholiques qui perdurent. Il y a les missionnaires catholiques, mais il y a aussi ce que j'appellerais les missionnaires laïcs, les hussards noirs de la République envoyés par Jules Ferry pour coloniser l'espace interne français. Et alors là-bas, en Guyane, ça existe toujours. Il y a des instituteurs qui débarquent dans les villages indiens avec la ferme volonté d'occidentaliser, moderniser ces gens-là, au lieu de se contenter de leur boulot qui est d'apprendre à lire, écrire, compter. Et lire, écrire, compter, ça peut servir ensuite d'arme aux Amérindiens pour lutter contre les gens qui veulent les manipuler. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, il faut connaître les armes de l'ennemi pour savoir lutter contre l'ennemi. Et c'est quand même pas mal de savoir lire le code pénal ou lire les textes de loi pour savoir qui est l'ennemi qui vient nous manipuler. Et hélas, il y a des instituteurs qui ont la perspective inverse, c'est de vraiment assimiler, acculturer les enfants. Moi, j'en ai vu un qui trouvait atroce d'avoir à enseigner devant des enfants qui ont juste un petit cache-sexe sur le corps. Et il disait, vous rendez compte, on est au 21e siècle et j'ai encore dans ma classe des jeunes filles qui viennent les seins nus. C'est atroce, au secours. Et il a appelé au secours le Lions Club de la banlieue de Cayenne, c'est-à-dire Rémire. Et le Lions Club s'est empressé de répondre favorablement à sa requête. Les bonnes bourgeoises de la banlieue de Cayenne se sont dit « Ouh là là, c'est effectivement atroce. Il y a encore des pauvres en Guyane, il faut aller à leur secours. » Donc elles ont fait une collecte d'habits. Et il y a une page entière du journal local France-Guyane qui est consacrée à l'arrivée du Lions Club dans le village indien de Camopi pour distribuer, enfin comme une ONG très fière, très paternaliste, pour distribuer des habits aux enfants. Alors au premier plan, dans cette photo de groupe des enfants, on voit une fillette qui est entièrement nue, qui doit avoir 5 ou 6 ans, et elle tient à la main une paire de Nike qui vient de sortir des cartons. Bon alors, faut pas exagérer, il y a aussi d'excellents instituteurs. Il y a par exemple Isabelle Monge, qui enseigne dans un tout petit village sur le Haut-Yapok, et elle a décidé au contraire de ne pas adapter les Indiens à elle, mais elle de s'adapter aux Indiens. Donc elle est une des rares fonctionnaires de l'État français qui travaille tous les jours normalement les seins nus parce qu'elle a choisi de s'habiller comme toutes les femmes du village. Et elle adapte le calendrier, les horaires aux habitudes des Amérindiens, c'est-à-dire en saison sèche, quand il y a la période des pêches collectives, l'institutrice dit aux enfants « Aujourd'hui, il n'y a pas classe, tout le monde va à la pêche collective ». Et elle a mis au point une pédagogie bilingue et biculturelle, c'est-à-dire que les enfants commencent en CP en langue maternelle et la langue étrangère, c'est-à-dire la langue française, est introduite petit à petit. Et c'est très bien comme ça. Il y a un autre instituteur, c'est Jean-Paul Klingelhofer. Il est resté 20 ans, c'est de 73 à 93, dans le même village, chez les Wayana. C'était un couple, elle s'occupait du dispensaire qu'elle a créé sur place. Ils ont eu une fille sur place qui est Maya, que j'ai connue quand elle avait 12 ans. Et elle parlait mieux le Wayana que le français. La gamine était parfaitement adaptée au mode de vie des Indiens. Donc il y a aussi d'excellents instituts, mais il n'y en a pas assez.
J'aimerais savoir, toi, tu as vécu 14 ans, peut-être plus,
oui, 14
hein,
ans,
en Guyane.
Oui.
Où exactement, dans quel village?
Alors, j'ai vécu essentiellement au début sur le Haut-Yapok, chez les Wayampi du secteur Itouwassou. Itouwassou, ça veut dire le saut géant. Et c'est mal traduit en général dans les livres, ils disent trois sauts, mais ça c'est une erreur, quoi. C'est saut géant. Donc là, il y a les hameaux de Zidoc, Roger, Pina et Yawapa. C'est les Amérindiens les plus traditionnels de Guyane, pour ce qui concerne les Amérindiens officiels, parce qu'il y a aussi des Amérindiens inconnus que personne n'a encore jamais vus, sauf par des traces indirectes. C'est des groupes qui sont très nomades et qui ne naviguent pas et qui ont probablement encore des haches de pierre. Bon, donc j'ai vécu chez les Indiens d'abord de l'Oyapock. Ensuite, là, on m'a donné mon nom indien. Je m'appelle le Blanc Rouge. Dans leur langue, ça fait pas là en sépillant. Ensuite, j'ai été chez les Wayana, où également on m'a donné le même nom, parce qu'entre-temps, ce surnom avait traversé la forêt. Donc je m'appelle Palasisitakpilem, en langue Wayana, donc c'est une langue caribe. Bon, je suis toujours resté dans le sud forestier, dans ce qu'on appelle depuis 1970 le pays indien. Ce pays indien, donc menacé par l'actuel secrétaire d'État au tourisme Léon Bertrand. J'ai pas beaucoup été sur la côte. Par exemple, en 14 années en Guyane, j'ai jamais vu décoller la fusée Ariane, parce que ça m'intéresse pas trop. Et puis les Amérindiens de la côte, je considère qu'ils sont autonomes au niveau de leur lutte politique, parce que eux-mêmes ont commencé à s'organiser depuis 1981. Je dirais que l'équivalent de Jean-Marie Djibaou, l'animateur des Kanaks, pour la Guyane, c'est Félix Tuka. Félix Tuka est hélas encore actuellement inconnu de la plupart des journalistes et hommes politiques français, mais Félix Tuka, c'est l'équivalent de Jean-Marie Djibaou. C'est lui qui a impulsé le premier courant revendicatif des Amérindiens à partir de 1981. En 1984, il y a eu la création d'une importante association de lutte des Amérindiens. Cette association est devenue, en 1992, la FOAG, c'est-à-dire la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Et actuellement, les membres de la FOAG sont par exemple à Genève, à l'ONU, parce que chaque année, c'est au mois de juillet que se réunissent tous les peuples autochtones du monde dans la seule enceinte internationale où ils peuvent être écoutés. C'est dans la commission, le Conseil économique et social, la commission des droits de l'homme, la sous-commission des minorités. Donc ils sont dans ce cadre-là et ils essayent de s'associer avec tous les autres courants indigènes qui viennent de l'Inde, de l'Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande. Et là, par exemple, ils se battent pour obtenir que les États signent la seule convention internationale qui protège les peuples indigènes, c'est la convention 169 de l'OIT. Mais la France a déjà dit qu'elle ne signera jamais la convention 169 parce que, paraît-il, ça serait anticonstitutionnel de signer une convention qui reconnaît l'existence de peuples indigènes. Mais là, les juristes se trompent, parce qu'il y a, par exemple, Norbert Roulant, qui est professeur de théorie juridique à Aix-en-Provence. Lui, il est l'auteur d'un pavé aux presses universitaires de France qui s'appelle « Droits des minorités et des peuples autochtones ». Et il démontre dans ce livre, ainsi que dans un article dans la Revue française de droit constitutionnel, c'est un article, je crois, de 1996 qui s'appelle « Être amérindien en Guyane française, de quel droit ?» Et là, il explique que si on lit vraiment la Constitution jusqu'au bout, c'est-à-dire si on ne se contente pas de faire comme tout le monde, de lire seulement le préambule, là où il est dit que la France est une et indivisible, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres articles qui permettent d'avoir une opinion beaucoup plus modérée et il y a une ouverture possible vers la reconnaissance des minorités. Il y a un autre paradoxe. On parle souvent à l'époque 1789 de l'abbé Grégoire qui a fait un rapport incendiaire contre les patois et il était pour l'éradication des patois. Mais l'abbé Grégoire est aussi l'auteur d'un projet de constitution où dans un des articles de ce projet, il est dit que tout peuple, si petit soit-il, a le droit à avoir un État indépendant. Alors ça, c'est quelque chose de redoutable parce que si vraiment on appliquait ça au pied de la lettre, par exemple, à peu près en l'an 1000, il y avait 20 000 langues sur Terre, 20 000 peuples, donc 20 000 États, en suivant la théorie de l'abbé Grégoire. Bon, et comme il y a eu une baisse très rapide à cause de l'homogénéisation du monde due à la marchandisation du monde, l'extension du monde commercial, du monde capitaliste, ça tend à homogénéiser, à faire disparaître les langues minoritaires. Donc on est passé de 20 000 langues à peu près 6 000 langues en 1980, et actuellement on en est à peu près à 5000 langues. C'est-à-dire on parle beaucoup de baisse de la biodiversité, mais on oublie aussi que parallèlement il y a une baisse de l'ethnodiversité, c'est-à-dire une baisse du nombre des cultures, et ça se mesure en de même que pour la biodiversité, on mesure l'extinction de certaines espèces animales, là on mesure l'extinction de langues.
Alors, il n'y a qu'à faire le bilan en France des nombres de langues régionales qui sont encore parlées, qui existent encore par rapport à celles qui existaient il y a ne serait-ce que 100 ans.
Bien sûr.
Le constat est quand même.
Et Jules Ferry a une responsabilité énorme. On parle toujours de Jules Ferry par rapport à l'éducation nationale, mais c'est une erreur. Jules Ferry, c'était avant tout un colon. C'est l'homme de la conquête de l'Indochine. C'est l'homme dont le gouvernement est tombé parce que dans les rues, tout le monde hurlait « Ferry Tonkin ». Parce que le peuple était furieux des dépenses exorbitantes qu'il avait imposées à l'État français pour la conquête de l'Indochine. Et Jules Ferry s'est dit « Moi, je suis un colon, je m'occupe d'étendre l'Empire français à la surface du monde pour concurrencer, entre autres, l'Empire anglais. Mais on a oublié d'achever la conquête de l'espace intérieur français. Pendant qu'on s'occupe du Sénégal et de l'Indochine, il y a encore, en France même, des endroits où il y a des gens qui ne se sentent même pas français. » Il a dit « c'est un scandale ». Il a fait un recensement, un rapport a prouvé que les deux tiers des habitants du territoire national français hexagonal ne parlaient pas le français. Donc il s'est dit « il faut envoyer les troupes pour achever la colonisation de l'espace intérieur français ». Et les troupes à envoyer, ce n'est pas des troupes avec des fusils, mais c'est des troupes sous forme d'instituteurs. C'est-à-dire l'armée coloniale pour ethnocider la diversité culturelle à l'intérieur de la France, c'est ce que Charles Péguy appelait les hussards noirs de la République, tous ces instits qu'on a envoyés partout, avec cette célèbre phrase qui a été marquée dans un préau, je crois, en Bretagne, « Il est interdit de parler breton et de cracher par terre ». Et c'est toujours vrai, hélas, dans certains endroits de Guyane française, quand on tombe sur des instits qui sont complètement en Troisième République.
Tu parlais de la Nouvelle-Calédonie. Là-bas, il y a eu un processus politique de référendum allant vers l'indépendance, moitié économique, moitié politique. Je voulais savoir, est-ce qu'en Guyane, c'est possible ? Tu parlais tout à l'heure d'associations d'Amérindiens. Est-ce qu'on pourrait aller vers un processus politique d'indépendance ?
Le problème, c'est que les Amérindiens sont très peu nombreux. Ils sont probablement actuellement dans les 10 000. Hein, ils étaient plus que 700 en 1948, mais il y a eu un suivi sanitaire ensuite. Et maintenant, ils sont probablement dans les 10 000. Je dis probablement parce que c'est illégal de compter. Le gouvernement français et l'INSEE ont ordre de ne pas compter par ethnie, parce que d'après la loi française, ça serait discriminatoire. Donc ils sont 10 000 dans un département où il y a probablement 200 000 personnes. Et politiquement, les 10 000 Amérindiens ne font pas le poids, puisque tous les postes sont tenus par les créoles cayennais. Sur 22 mairies, il y a 20 mairies tenues par les créoles cayennais. Et les créoles cayennais ont 100% des postes au conseil général et au conseil régional. Sur 22 communes, il n'y a que 2 municipalités tenues par les Amérindiens. Alors à Camopi, hélas, c'est plus Paul Sweetman, qui était très bon et qui est mort mystérieusement, on a dit, d'éclatement de la rate, dû à un paludisme. Mais comme il était agent de dispensaire, c'est un petit peu bizarre. Et il y a Jean-Paul Ferreira, qui est un excellent maire qui a été élu il n'y a pas longtemps dans la commune amérindienne d'Awala Yalimapo, sur la côte, chez les Indiens Kalinia. Et les Kalinia sont à la tête du mouvement revendicatif amérindien, parce que comme ils sont sur la côte et qu'il y a longtemps qu'ils vont à l'école, certains d'entre eux sont universitaires, et donc ils sont rompus à toutes les méthodes modernes. Chez eux, il y a des ordinateurs. C'est eux qui prennent l'avion pour aller à Quito, à Lima, à Washington, à Genève, dans toutes les rencontres internationales concernant les organisations autochtones. Enfin, ils sont maintenant parfaitement au parfum de tous les processus pour d'autodéfense. Par contre, dans le sud forestier, où les Amérindiens sont pour la plupart analphabètes, ne savent pas lire... Pour eux, c'est beaucoup plus délicat, donc c'est pour ça que j'ai été agir là-bas, chez eux, et puis j'ai essayé de m'opposer aux chercheurs d'or. Quand je suis arrivé en 86, je me suis opposé au rallye Paris-Dakar, le Thierry Sabine Organisation, qui voulait créer un rallye motonautique avec des bateaux hors-bord. Et comme par hasard, ils voulaient que les bateaux hors-bord circulent sur les fleuves habités par les Amérindiens, alors qu'il y a des fleuves inhabités en Guyane, comme la Mana et la Prouague. Mais non, parce qu'il fallait que le Zodiac soit photographié avec en arrière-plan le loup pittoresque avec le petit pagne rouge et les seins nus d'une Amérindienne, ou une Amérindienne tenant son bébé dans un petit hamac sur l'épaule. Bon, pour moi, c'est une exploitation grotesque de type zoo humain des populations. Donc je me suis opposé au Paris-Dakar en 86. J'ai été aidé par des organisations comme Survival International, par un écrivain qui s'appelle Jean-Marie Le Clésio. Et tout ça, c'est venu aux oreilles du gouvernement. Je crois qu'à l'époque, déjà, Jacques Chirac était Premier ministre. Et finalement, le rallye Paris-Dakar motonautique en Guyane a été interdit. Mais ça a fait qu'ensuite, j'ai été très surveillé. Et ils ont vu que je continuais à faire l'agitateur. J'ai empêché le Conseil général de construire un hôtel chez les Indiens Wayana. Bon, ça aussi, ça leur est resté en travers de la gorge. J'ai essayé de m'opposer à la distribution du RMI chez les Amérindiens, parce que le RMI se transforme en alcool. Alors je cite les chiffres de Chirac, hein, c'est des chiffres de 1997. Chirac a dit que sur les 700 000 francs de subsides sociaux qu'on distribue chez les Indiens à Camopi, il y en a 500 000, donc les 5 septièmes, qui se retrouvent dans les poches des marchands d'alcool brésiliens qui se sont installés sur la rive juste en face de Camopi. Alors donc Chirac lui-même sait que le RMI... et la distribution des allocations familiales, ça a des conséquences déplorables dans une population qui est par ailleurs complètement déboussolée et déstabilisée. Donc il y a aussi des suicides. Mais là, j'ai pas gagné, quoi. J'ai pas pu empêcher le RMI d'être distribuable. Alors que si on lit bien la loi de décembre 1988, le RMI n'est pas distribuable aux populations qui ont trop d'avantages en nature. Avec leur jardinage, la chasse, la pêche et la collecte, ils sont autosuffisants. Et le RMI n'apporte que des dégâts. Mais sur cet aspect-là des choses, j'ai perdu. J'ai pas réussi non plus à imposer à l'éducation nationale de faire une campagne nationale de recrutement en France pour ne recruter que des instits hyper rustiques et motivés pour rester pendant 10, 20, 30 ans en forêt pour s'orienter vers une pédagogie bilingue et biculturelle. Il commence à y avoir des instits noir-marron. Il y en a un notamment, celui-là il faut en parler parce qu'il est extraordinaire, c'est Toby Bala. Parce que Toby Bala, instit, est devenu maire de Maripasoula. Maripasoula, c'est la bourgade qu'on voit beaucoup dans le film La loi de la jungle. Et donc c'est le cœur de tous les troubles, c'est là où ça tire à la Kalachnikov dans les rues, dans tous les sens, enfin, c'est l'ambiance Far West. Mais Toby Bala, sur une liste anti-chercheur d'or, a gagné les élections, il a eu 70% des voix, et le lobby des chercheurs d'or, qui était mené par Antoine Abienso, a perdu les élections. Donc quand on voit le film La loi de la jungle, on a l'impression que tous les noirs marrons sont derrière les chercheurs d'or, c'est faux. C'est les noirs marrons qui sont forts en gueule, qui ont la Kalachnikov à la main, qui font peur à tout le monde, mais quand les gens votent dans le silence et le secret de l'isoloir, et bien là on s'aperçoit que 70% des gens, ils en ont marre de ces chercheurs d'or qui font la loi, qui foutent la merde partout. Tous les repères sociaux et moraux sont en train de se perdre avec cette ambiance Far West. D'ailleurs, dans les dispensaires, ils remarquent que les filles, on pourrait presque dire les fillettes, sont enceintes de plus en plus tôt. Avant, il y avait des structures coutumières et familiales, où il y avait une autorité des parents. Les filles étaient rarement enceintes avant l'âge de 15-16 ans. Et maintenant, les filles sont enceintes à 11, 12, 13 ans. Et ça, c'est parce qu'il y a déstructuration de la vie familiale, et il y a arrivée du RMI, des allocations familiales, et ça déstabilise tout. Plus, ce qu'ils voient du monde moderne, c'est le catalogue La Redoute. Alors, ils achètent n'importe quoi. Dans un village, quelqu'un a acheté des couvertures chauffantes électriques. Un village sans électricité. Donc, les gens débarquent dans la société de consommation avec une énorme naïveté, et c'est vraiment du n'importe quoi. Tout ce qui se passe en Guyane française, c'est horrible et ça ne s'arrêtera que si on alerte l'Europe. Il faut faire pression à partir de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Italie, etc. sur le gouvernement français et c'est comme ça qu'on va gagner. Tant qu'on reste dans un climat franco-français, ça ne marchera pas. Il y a une trop vieille habitude de compromission entre les bourgeoisies françaises et créoles. Donc pour moi, c'est la voie pour gagner en Guyane française.
Plus d'informations, adressez-vous au Comité Solidarité Indien des Amériques, le CSIA Nitassinan, au 21 Terre rue Voltaire, Paris 11e. Également sur internet www.csia-nita2sinan.org. Vous pouvez prendre contact avec Thierry Salantin par email tsa2lantin@hotmail.com et ainsi commander la cassette vidéo du film de Philippe Lafay, La loi de la jungle, chronique d'une zone de non-droit, la Guyane française. Cette interview a été réalisée par Alexandra Josse et Antoine Charbonneau pour Canal Sud.
Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Elle a été réalisée par l'association Média Commun. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.